Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ici, nous parlions aujourd'hui de nos courbatures. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course à pied, sur l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs, l'organisation. C'est un bout d'un format de questions-réponses plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien sûr dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je réponds à une question de Romain qui m'avait déjà posé une première question dans le Hamster Running Club sur l'entraînement, et notamment on avait parlé des descentes. Et il m'a dit, j'ai couru en descente à l'entraînement et j'ai des bonnes grosses courbatures aux cuisses. Une méthode pour faciliter la récupération, est-ce que je dois faire un petit footing sans forcer, du stretching ou quoi que ce soit. Bon, déjà, Romain, la réponse à cette question, c'est que on ne sait pas vraiment d'où viennent les courbatures. C'est parce que on sait, bon, bien sûr, vous connaissez ce que sont les courbatures, ce sont des douleurs qui interviennent en général dans les 24 heures après un effort, mais en fait, on n'en connaît pas la cause exacte, la cause précise. On sait que ça vient de l'entraînement, mais l'explication scientifique est encore un petit peu floue. Voilà, on sait qu'elle provient de probablement de micro-lésions, mais lésions qui viennent de l'entraînement, de l'intensité de l'effort pour les muscles qui doivent supporter finalement un effort peut-être auquel ils ne sont pas forcément préparés sur l'instant. Ça peut venir de petites déchirures qui sont faites justement par cet effort, des légers hématomes aussi causés par la rupture de capillaires sanguins, et puis une réaction inflammatoire au calcium dégagé lors de la contraction musculaire. C'est-à-dire que là, bon, on est vraiment dans le fonctionnement des muscles et comment les muscles fonctionnent, comment le corps fonctionne pour nous faire bouger. Bon, je dirais qu'en fait, le principe de l'entraînement, pour le rappeler, c'est que on demande un effort à notre corps, il n'est pas en mesure de le gérer complètement, il va s'adapter. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est comme ça qu'on progresse, tout simplement. Si on demande toujours la même chose à notre corps ne progresse pas. Quand on lui demande de faire des choses différentes, porter plus lourd, courir plus vite, courir plus longtemps, quoi que ce soit, il y a un moment donné où il est peut-être pas vraiment adapté, et puis ça peut créer ces petites lésions, ces petites choses comme ça, et donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement se renforcer. L'adaptation passe par un renforcement des fibres musculaires notamment, et qui n'ont pas vraiment supporté l'effort ou qui ont eu du mal à supporter. Alors on a une descente en plus, il y a beaucoup de pression qui se fait sur les muscles, et donc c'est logique en fait que le corps a besoin de s'adapter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et les fibres musculaires qui sont endommagées, il va les reconstruire plus fortes. Donc il faut apporter aux muscles de quoi se reconstruire. Et on sait aussi que on peut imaginer qu'en fait le corps a mis ça en place, la nature a mis ça en place pour nous forcer peut-être à nous reposer, en tout cas à lever le pied, que ce sera un mode de protection pour nous inciter à faire attention, à adapter l'effort dans les heures qui suivent, le lendemain, etc. Pour laisser le temps, en fait, j'ai envie de dire, et peut-être que c'est un petit peu, on reviendrait sur les notions de stress mécanique. Vous savez, c'est quelle est la quantité d'entraînement qui me permet de faire progresser, mais quelle est la quantité d'entraînement qui évite la blessure. Bon, on peut se dire que les courbatures sont un marqueur, finalement, de dire, là, vraiment, ça a été un peu dur pour les muscles. Donc, on va faire attention à peut-être lever le pied, enfin, pas forcément lever le pied, faire attention à la manière dont on s'entraîne le lendemain, etc., faire des efforts qui sont adaptés. Alors maintenant qu'on a vu finalement ce qu'était une courbature, comment on la gère? Qu'est-ce que je fais pour la gérer? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut imaginer, qu'on peut faire, moi j'ai testé, il y a des choses que je n'aime pas, il y a des choses que j'aime, etc. Il y a des littératures à plein d'idées, et le marketing des marques a plein d'idées pour vous. Disons que le truc qui pour moi me semble le plus simple à mettre en œuvre au départ, c'est de la récupération active, et la récupération active, c'est de la marche, de la natation, du vélo, un petit footing léger, voilà, des choses qui sont de l'activité, mais de l'activité légère, et qui est en fait tout à fait logique, hein. C'est que ça permet d'amener en fait du fonctionnement dans le corps, ça permet aussi d'amener du sang qui va revenir dans le corps, etc. Et je vous rappelle que s'il y a des petites lésions, s'il faut reconstruire le corps, etc., bon bah derrière, il faut hein, que tout ce qu'il faut pour reconstruire le corps arrive jusqu'aux muscles. Et donc la récupération active fait partie des stratégies qui permettent justement d'activer un petit peu juste le fonctionnement hein, de tout ça. J'étais chez le kiné l'autre jour qui me parlait de vasculariser mon nerf sciatique qui me fait mal. Et pour vasculariser, pour amener du sang jusqu'au nerf, et ben le meilleur moyen c'est de bouger, hein, de le faire bouger. Bon bah sur les muscles c'est un petit peu la même chose. Dans cette récupération active, on peut alterner les séances dures, les séances en endurance plus cool aussi. Donc j'en reviens hein, sur leur rythme, c'est-à-dire que on va pas mettre deux séances d'intensité importante un jour sur l'autre. On va laisser entre temps soit du repos, soit de la récupération active, soit quelque chose qui nous permet en tout cas hein, de faire quelque chose qui soit plus cool en tout cas, hein, quelque chose qui soit plus cool. Maintenant, pour continuer sur les tactiques. Bien sûr, on pourrait penser, on parle de stretching, etc., on pourrait penser à faire des étirements, et je dis, moi, attention aux étirements très forts, qui peuvent aggraver, en fait, un petit peu les choses, puisque déjà, on a mis beaucoup de pression sur les muscles, et les étirements, on va leur rajouter encore une autre pression. Alors, il y a un gros débat sur les étirements, est-ce qu'il faut s'étirer ou pas, beaucoup s'étirer, pas beaucoup s'étirer, comment on s'étire, à quel moment on s'étire, etc. Bon, bref. Moi, je suis plutôt de la team, on s'étire pas beaucoup après, parce que on peut se dire que c'est l'image que je prends tout le temps, c'est que c'est moi-même. Si on me demande un effort important là tout de suite là comme ça, c'est on me fait porter quelque chose de lourd, ça me tasse un petit peu et tout sur moi. J'essaye de récupérer et puis d'un coup derrière, on me remet encore une couche. Forcément, ça c'est plus difficile à encaisser, etc. Et les étirements, sans qu'il y paraisse, pour un muscle qui a été compressé, qui s'est étiré, qui a travaillé, etc. pendant plusieurs minutes, hein, qui a fait de l'effort, etc. Finalement, l'étirement lui ramène encore dessus une certaine activité. Et donc, on peut se dire qu'on peut aussi pas trop tirer dessus. On peut faire des étirements légers, mais on peut pas trop tirer dessus pour lui laisser un petit peu de répit. Et justement, pour dans cette phase où on a ces douleurs qui apparaissent, donc juste après l'entraînement et puis le lendemain, peut-être pas faire des étirements trop forts. En revanche, on peut se dire qu'on peut faire une séance de stretching, de mobilité, de yoga, par exemple, une fois par semaine, une séance peut-être plus complète. Plutôt que de faire des petites séances d'étirement après à chaque séance, peut-être faire une vraie séance plus basée sur la souplesse, sur la mobilité, une fois dans la semaine, et qui peut être plus intéressante, je pense en tout cas, que de faire des séances d'étirement où on va s'étirer longtemps, en plus on n'apprécie pas ça, et puis l'hiver, on sait pas trop où la faire, dehors c'est pas pratique, on a eu chaud, on est transpirant, on a envie de prendre la douche, on a peur d'avoir froid, enfin vous voyez, les étirements c'est pas le truc qu'on fait le plus, et à la limite c'est pas très grave, enfin moi je considère que c'est pas le point le plus grave de tous. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est l'hydratation et l'alimentation. Boire de l'eau, apporter des minéraux, des protéines pour reconstruire, ça c'est extrêmement important. J'ai fait dans le Hamster Training Club, dans la partie entraînement du Hamster Training Club, j'ai fait une pépite sur l'hydratation et sur comment avoir un bon état d'hydratation en permanence. C'est vraiment un élément important parce que l'hydratation fait partie de la récupération et fait partie aussi de les bases de l'alimentation anti-inflammatoire. Je l'ai dit, hein, il y a de l'inflammation qui est causée naturellement par l'effort, hein, par un effort qui peut être important, qui peut être long, il y a une réaction qui se fait dans les muscles. À un moment donné, il faut se demander comment est-ce qu'on va venir aider le corps à lutter hein, contre ce phénomène qui est naturel. Mais quand même qui doit être traité par le corps, parce que le corps, lui, ce qu'il cherche, c'est un équilibre. Donc on va l'aider à retrouver cet équilibre. Pour aider à retrouver cet équilibre, le fait de boire de l'eau, alors on va varier les eaux, hein, eau du robinet, il y a bien sûr les fameuses eaux minérales, vous avez sûrement vu la ceinture boire une bouteille de ceinture après les entraînements, etc. Chacun a ses rituels. Moi, c'est vrai que dans le frigo, j'ai toujours de la ceinture ou une autre eau minérale. J'en bois en généralement un verre à deux verres par jour. Voilà. Bon, il y a des débats sur finalement, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, parce que il y aurait des meilleures sources de minéraux. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Moi, je suis pas très, franchement, je le dis, je suis pas très. Et puis vous savez, avec sport et nutrition, je suis franchement pas très sur basé sur tout ce qui est boissons de récup, trucs chimiques, etc. Enfin, trucs qui viennent de l'industrie pour permettre de s'hydrater, de récupérer, etc. Je bois pas de choses de mélange, je bois pas, même si un jour j'ai un coach m'a parlé des BCA, on m'a parlé des électrolytes, tout un tas de choses comme ça. Ben moi, je suis un petit peu vieux machin, j'aime bien de l'eau, j'aime bien des fruits, j'aime bien des légumes, j'aime bien manger ma banane en rentrant parce que c'est une bonne source de potassium, etc. Ça tamponne l'acidité, j'aime bien les eaux minérales, j'aime bien boire juste de l'eau, j'aime bien une infusion avec des plantes reminéralisantes, j'aime bien les jus de légumes qui sont aussi très intéressants, notamment les jus verts pour reminéraliser, voilà. C'est comme ça, et donc hydratation, alimentation, et puis j'ai envie de dire aussi le sommeil, ne pas oublier de dormir. Le sommeil, je le répète, hein, ça fait partie aussi de ma philosophie de vie, vous savez que Sam, sommeil, alimentation, mouvement, bon ben là je viens de citer les trois, hein, tout simplement, parce que quand vous avez bien bougé, il faut bien s'alimenter pour tout le temps, pour avoir les bonnes énergies, pour être en pleine forme, etc. Et le sommeil fait partie de la base, hein, c'est le meilleur médicament, hein, considéré par les scientifiques comme le meilleur médicament, c'est ce qui permet de récupérer, de mémoriser, de reconstruire le cerveau, de faire plein de choses, même de mémoriser le geste en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que le mouvement que vous faites, par exemple à l'entraînement, vous travaillez un nouveau mouvement à l'entraînement, vous travaillez votre nouvelle foulée ou quoi que ce soit, et ben là, dans la nuit, le cerveau en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la mémoriser, il va l'intégrer, il va la rentrer, il va vraiment l'imprimer, hein, à l'intérieur de votre de lui, dans des cases spécifiquement pour ça, pour que vous puissiez le répéter plus facilement. C'est d'ailleurs pour ça que la visualisation marche aussi bien, parce que quand vous visualisez un geste, et ben en fait le cerveau l'imprime, parce qu'il a l'impression de vivre, il va l'imprimer, et on est capable de progresser par la visualisation, tout simplement parce que pour le cerveau c'est quelque chose qui est assez réel, et on est capable de répéter un geste, de voir le geste, comment on le faire, de l'imprimer vraiment en nous. Et quand on va aller passer à l'action, quand on va par exemple courir, et ben si on a visualisé comment on pose le pied, si on a visualisé comment on monte la jambe, comment on bouge le bras par exemple, et ben ce qu'on a travaillé comme ça en le visualisant, en le répétant, et ben va revenir beaucoup plus rapidement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut faire progresser des sportifs qui sont blessés, parce que faire progresser ou en tout cas ne pas leur faire perdre certaines compétences techniques, ben tout simplement parce que on leur a fait visualiser le geste. Et vous pourriez le faire aussi avec tout ce que vous avez à apprendre. Par exemple, vous pourriez visualiser vos doigts sur votre clavier de piano quand vous voulez apprendre un morceau de musique, et savoir dire il faut que je pose là, que je pose là, que je pose là, que je pose là. Travaillez comme ça mentalement où est-ce que vous posez vos doigts sur votre clavier de piano, et vous rendre compte que ben vous avez mémorisé beaucoup plus rapidement le morceau, mais à condition en fait de le faire régulièrement, et notamment de le faire vous voyez le soir avant de vous dormir, des choses comme ça. Et ben ça permet au cerveau de l'avoir en stock, et pendant la nuit en fait le sommeil, il y a des ondes électriques qui font passer l'information de zone d'un cerveau à l'autre, et qui vont aider, hein, aussi. Donc le sommeil, c'est à la fois un très bon moyen pour récupérer, c'est le meilleur outil de récupération qu'on a, mais c'est aussi un très bon moyen pour progresser, voilà, et pour mémoriser, pour intégrer de nouveaux gestes, de nouvelles choses que l'on apprend pour mieux nous entraîner. Et puis dernière astuce, tout ce qui est automassage. Une huile par exemple, alors vous échevez les dates de l'huile avec c'est de l'arnica dedans. L'arnica fait partie des plantes qui sont réputées justement pour la récupération. Là je vous renverrai avec l'épisode avec Monsieur Récup, ses massages sportifs, hein, sur le sens dans lequel on fait les massages, etc. Ça il avait expliqué l'intérêt du massage. Si vous êtes à Paris, vous pouvez aussi aller voir Monsieur Récup. Je vous mettrai bien sûr le lien vers l'épisode dans les notes de cet épisode. Je vous mettrai un lien vers l'épisode qu'on avait fait ensemble, où il est très bien expliqué. Mais vous pouvez faire, hein, c'est cet automassage vous-même. Alors il faut insister un petit peu, il faut y passer un petit peu de temps, hein. C'est pas juste je mets un petit peu d'huile sur le truc et je masse 2 secondes et puis c'est bon. Non, il faut passer un petit peu de temps, il faut essayer de de trouver un petit peu, passer un petit peu sur les différents endroits des jambes, etc., ou du corps qui font mal. Bon, après, ça sert à rien non plus d'appuyer trop fort dessus, parce que vous pouvez faire plus de mal, hein. C'est un petit peu comme les étirements, j'ai envie de dire. Les étirements, si on en fait trop fort, c'est pas très bon. Léger, ça va. L'automassage, c'est un peu pareil, hein. Moi, je trouve, c'est-à-dire que il y a des zones, d'ailleurs, si vous essayez vraiment de les masser, ou si vous appuyez très fort, vous pouvez même vous faire peut-être plus mal que du bien, parce qu'elles sont situées à des endroits qui sont difficiles à atteindre, etc. Et en ce moment, je vous parlerai peut-être de mon psoas. Le kiné a vu mon psoas, c'était lui qui me faisait mal, qui me provoquait mes douleurs de dos. Et ben, quand on regarde un petit peu, il y a si on veut essayer d'aller toucher le psoas, enfin d'essayer d'aller manipuler le psoas, c'est pas évident parce qu'il y a plein de choses qui sont entre le psoas finalement et le doigt, hein, si on essaie d'appuyer, et bah, d'aller les titiller, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, comme quoi, des fois, il faut se méfier aussi. Le corps, hein, les spécialistes, les kinés, les ostéos, les médecins sont des gens qui sont formés à comment le corps fonctionne exactement, où sont placés les muscles, où sont placés les tendons, les artères, tout ça, etc. Et quand ils appuient un endroit, eux spécifiquement, bah, ils savent pourquoi ils le font. Voilà, ils savent pourquoi ils le font. Ils savent où le faire exactement. Et bah, nous, on n'a pas cette capacité-là, cette formation-là. Et donc, des fois, bon, bah, il vaut mieux faire attention à ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des trucs dont je ne suis pas très fan, en fait. Un truc dont je ne suis pas très fan, par exemple, c'est les rouleaux de massage. Bon, le rouleau de massage, moi, je trouve que ça fait très, 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 très mal. Et je trouve que la plupart du temps, ben, je sais pas vraiment où passer le rouleau. Voilà, je sais pas vraiment où passer le rouleau. Parce que, est-ce qu'il faut le passer directement sur la cuisse, derrière la cuisse, etc. Oui, normalement, il faudrait faire un petit peu des deux. Alors, on va un petit peu devant, un petit peu derrière. Est-ce qu'il faut le faire sur le mollet? Combien de fois il faut faire? Et puis, ça fait super mal. Moi, j'en suis pas fan. Franchement, le rouleau de massage, j'en ai un à la maison. Il est beau, hein. Franchement, il est beau. Je pourrais mettre sur le bon coin en marquant presque neuf. Parce que, bon, je l'ai utilisé quand même. Hein. Vraiment, je l'ai utilisé. Pour tester, pour voir un petit peu, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé dans des livres, j'ai vu plein d'endroits sur, ils donnaient des conseils pour utiliser, pour bien l'utiliser. Mais je n'ai pas trouvé que c'était le truc qui était pour moi le plus efficace, et le truc qui était le plus efficace pour moi, je vais vous le donner un petit peu après, c'est ma petite astuce. Mais le rouleau de massage, pour moi, c'est un outil de torture, et c'est pareil, hein, quand on a déjà mal, etc., rajouter encore au muscle qui est en train de se réparer des trucs sur lesquels on va appuyer, ouais, je trouve pas ça terrible. Alors peut-être, hein, on va dire, le rouleau massage, on pourrait l'utiliser dans ce cas-là, dans les fameuses séances d'une fois dans la semaine, pour faire aller un peu plus loin, pour récupérer un peu différemment, etc. Mais moi, je trouve que pour trouver vraiment, il y a certains endroits, pour vraiment trouver à quel endroit il faut appuyer, à quel endroit il faut placer le rouleau, comment il faut placer la jambe, comment il faut placer le dos, quelles sont la bonne pression qu'il faut mettre dessus pour arriver à trouver le bon point, etc. Je trouve que c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, dans la même catégorie, je vais mettre les pistolets de massage là qu'on voit partout, etc. Il y en a des adeptes, etc. Moi, personnellement, je trouve que ça fait un peu torture, cette histoire-là, et je suis pas très pour la torture, et notamment en ce qui me concerne moi, donc je suis pas extrêmement... je suis pas un adepte, en fait, voilà, je suis pas, fais pas partie des adeptes de ces engins-là. J'ai aussi tenté, j'ai un Blue Tense à la maison pour faire de l'électrostimulation. Je l'ai utilisé, alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup à une époque, mais plutôt en renforcement musculaire, en appui du renforcement musculaire, notamment quand je m'étais cassé le coude, par exemple, etc. Je pouvais plus faire d'abdos, je pouvais plus faire certaines séances, et je l'avais utilisé un petit peu dans ce sens-là. Je l'ai utilisé, par exemple, en complément de certains mouvements de sport, c'est-à-dire que si vous mettez de la contraction musculaire en plus et la contraction électrique en même temps, ça augmente un petit peu. J'avais testé ça parce que j'avais vu des vidéos. Mais je dois vous dire un truc, c'est que mon truc d'électrosimulation, qui est un Blue Tense, qui est super pratique parce que ça marche sur le téléphone, je l'amène souvent, vous voyez, en vacances, je le mets souvent dans les bagages, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait un an que je l'ai pas utilisé. Vraiment un an que j'ai pas utilisé. Et en fait, toute l'année du 496, avec le 496 challenge, en courant tous les jours, etc., je ne l'ai jamais utilisé. Même au mois de janvier, en courant 500 km, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je le dis, hein, très clairement. Je trouve que c'est un appareil qui est super bien, qui est bien pour, notamment sur soulager certaines douleurs, travailler certains éléments, etc. Mais en fait, en récupération, je n'ai pas trouvé que c'était pour moi, c'est pas le truc le plus important, le plus intéressant. De même que j'ai testé aussi la cryothérapie. La cryothérapie, moi je trouve que c'est d'une part c'est cher et puis j'ai trouvé que c'était pas si efficace que ça. J'ai vu passer des études là récemment d'ailleurs qui disaient que les effets de la cryothérapie sont un peu discutés quand même, de savoir sur quoi c'est efficace et pourquoi on va l'utiliser. Il y a des adeptes. Toujours, il y a toujours des adeptes, hein. Et puis il faut pas non plus négliger la part de mental, du fait que ça nous fait du bien de nous en occuper, etc. Moi, je trouvais que ça ne changeait pas grand-chose sur ce que j'avais quand j'en ai fait, et donc c'est pas le truc que je vais renouveler. Voilà, j'ai tenté l'expérience, j'ai vu, hein, j'ai vu, mais je suis pas un adepte de la cryothérapie. Je pense que la cryothérapie, d'après les études que j'ai vues, sont très intéressantes pour certains types, vraiment certains éléments très précis et qui correspondent finalement à pourquoi on a besoin du froid, grosso modo, mais que pour les courbatures, je ne sais pas si c'est le truc le plus intéressant, surtout au tarif auquel ça coûte. Je ne suis pas non plus fan des bains froids, mais ça c'est plutôt mon fonctionnement personnel. Et pourtant, je le dis souvent, hein, j'ai regardé la méthode Wim Hof, dans ce podcast on a parlé de la méthode Wim Hof, j'ai eu un invité qui était instructeur Wim Hof. C'est l'épisode avec Leonardo. Respiration, froid, etc. Oui, sur le principe. Et puis on voit les équipes pro qui se jettent, enfin qui se trempent dans des bains ou dans des poubelles avec des glaçons dedans, qui font du chaud, du froid. L'autre jour, j'écoutais encore un podcast dans lequel c'est un podcast qui s'appelle Hockey Coach, parfait par Clémentine Sarlat, que vous trouvez sur Spotify. Et dedans, il y a l'entraîneur de l'équipe de Lyon en féminine, Sonia Bonpastor, qui disait à ses joueuses après le match, bon bah vous faites bain chaud, bain froid pour la récupération, et puis vous vous reposez, vous allez dormir. Bon, ben moi dans tout ça en fait, le point que je garde moi, c'est vous allez dormir, vous allez vous reposer, vous allez dormir. Et le bain chaud, bain froid, d'ailleurs elle dit c'est pas obligatoire, hein, ceux qui veulent le faire le font, etc. Moi le froid, le problème c'est que c'est contre le fonctionnement de mon corps. Mon corps il aime pas vraiment le froid. Je suis plutôt team bouillotte. Donc la team sur laquelle moi je suis bien avec du chaud, etc. Et le froid, c'est pas le truc dont je suis le plus fan. Et en plus, ça demande à mon corps une adaptation encore complémentaire. Alors, bien sûr, ça se travaillerait. Bien sûr, ça pourrait s'adapter, etc. Bien sûr, si j'en faisais tous les jours. Bon, là, je mets un peu plus de froid en ce moment dessus, mais pour tester, etc. Mais bien sûr, si j'en faisais plus, peut-être, je verrais des effets. Et ce qu'a prouvé Wim Hof, hein, c'est important de souligner que scientifiquement, ce que prouve Wim Hof, ça fonctionne. Hein, il y a des bases, il y a des études scientifiques, etc., qui montrent que ce qu'il fait, ça fonctionne. Sauf que moi, en fait, j'ai surtout l'impression que ça me fatigue encore plus, hein, parce que mon corps derrière, lui, va essayer de réchauffer, 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 et j'ai l'impression que moi, pour moi, ça me fatigue plus qu'autre chose. Donc, je suis pas super fan de tout ce qui est bain froid, douche très froide, etc. D'ailleurs, j'ai presque le sentiment, d'ailleurs, que c'est un peu contre-productif. Mais bon, là, il faudrait voir avec des kinés, justement, les médecins, etc. Vous savez, entre le moment où il faut mettre du chaud, le moment où il faut mettre du froid, sur les lésions, les blessures qu'on peut avoir, etc. Voilà, il y a différents, le chaud et le froid ne soignent pas la même chose et on l'utilise pas de la même manière. Donc là encore, c'est pareil, hein. Moi j'ai vu bain froid, je vois toujours les conseils bain froid, etc. C'est moi, cette tactique bain froid, douche froide, etc. C'est pas celle, en tout cas, que j'aime utiliser et je trouve en plus qu'elle me fatigue plus qu'autre chose. J'avais dit que j'avais une dernière astuce à vous partager, donc c'est le moment de cette astuce-là, et qui va revenir un petit peu, vous savez, alors on avait parlé avec Runner Life, avec Damien Runner Life 35 dans l'épisode, sur le fait qu'il s'allongeait sur un tapis, vous savez, tapis de fleurs, avec des petits picots là, etc. Alors moi je suis pas un gros gros adepte du tapis de fleurs, lui il le fait je crois une fois toutes les semaines au moins, ou peut-être même tous les jours, peut-être un petit moment, il s'allonge dessus, moi je me suis même endormi dessus, le mien une fois, donc comme quoi ça pique, mais tout est possible. Mais ce que j'aime bien, et que je trouve qui est plus simple en plus que le tapis de fleurs, et qui est plus agréable, c'est de rouler une balle de, alors ça peut être une balle de tennis, mais ça peut être aussi une balle comme les rouleaux de massage, vous savez, vous en avez chez Decathlon, etc., qui a des picots dessus aussi. Donc il y en a, alors il y a différentes balles de massage, il y a celle avec des petits picots, il y a celle avec des qui sont souples, il y a celle avec des picots, des formes un peu comme les rouleaux de massage avec des trucs un peu durs, etc. Donc ça s'appelle des balles de massage tout simplement, mais ça marche aussi qu'une balle de tennis très classique, ça marcherait même avec, je pense, avec une balle de golf d'ailleurs, ça peut-être même peut-être plus efficace. Et donc la rouler sous le pied en fait, c'est-à-dire pas la rouler sur le muscle, mais la rouler sous le pied. Vous pouvez même faire ça presque, j'ai envie de dire, assis devant la télé, vous voyez, pour ça peut fonctionner. tranquillement, vous la mettez par terre, vous mettez le pied dessus. Moi, j'aime bien me mettre debout comme ça, par exemple, en regardant la télé et tout. Et je fais rouler le pied de devant, derrière. Et je le fais rouler aussi sous les orteils. Je la fais rouler, donc c'est-à-dire j'essaie de la passer d'orteil en orteil, dans un sens et puis dans l'autre, etc. Double avantage, hein, c'est que d'une part, sous le pied, vous avez alors je sais plus comment on appelle ça, mais disons que vous avez un système qui combat la gravité, qui est super bien foutu, c'est que vous avez, bien sûr, le cœur, il pompe le sang, il le fait descendre dans le corps, il le fait remonter, etc. Mais en fait, comme on est des êtres verticaux, le corps a pensé à un système pour aider, et justement pour avec des sortes de petites pompes qu'on a sous les pieds qui renvoient, en fait, qui aident à renvoyer le sang vers le cœur. Et je vous rappelle qu'en fait, notre objectif dans la récupération, c'est de faire circuler le sang, finalement, apporter tout ce qu'il faut pour réparer les muscles, réparer les tendons, etc., tout ça, pour les reconstruire et donc leur ramener tout ce qu'il faut pour se construire, hein, les briques avec les protéines, etc., les acides aminés et autres. Et donc, un petit peu, vous voyez, comme me disait mon kiné en disant, bah, il faut faire bouger le nerf pour le vasculariser, bah, là, c'est un petit peu pareil, hein, il faut tout simplement, on va aider le corps un petit peu à faire circuler un petit peu le sang, etc., dedans. Et cette fameuse balle, elle vient appuyer, hein, sur ces zones là comme ça, sur les petites pompes, et ça aide à faire circuler le sang. Mais en fait, c'est le même effet que marcher, et en récupération, en marche active, je trouve que marcher, et c'était un très bon point, et marcher pieds nus, c'est encore mieux. Donc voilà, ça boucle un petit peu. Et puis j'ai envie de dire en plus que le fait de la petite balle là, c'est un gros avantage, c'est que ça permet de travailler aussi le pied, ça développe le pied, et c'est vraiment tout bénef, hein. C'est à dire que si vous entraînez à faire passer la balle entre vos orteils, etc., vous allez vous rendre compte que vos orteils n'ont peut-être pas la mobilité nécessaire pour le faire, mais qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, ils vont gagner en mobilité, et on s'en rend pas compte en fait, mais nos orteils ne sont pas assez musclés, ils perdent en musculation avec les chaussures, etc., ils perdent en force, ils ont une puissance qui est beaucoup plus importante que ce que l'on pense, hein, avec il y a des petits muscles releveurs, il y a tout un tas de choses dedans, c'est une merveille le pied, et ben en fait ça permet aussi de les travailler, et je trouve que c'est un élément qui est vraiment très intéressant. Donc tenter, hein, la balle sous les pieds, ça permet de rendre à vos pieds une certaine mobilité, une certaine force, une certaine dextérité que l'on perd dans les chaussures. Et là, je reviendrai un peu ce qu'on a dit sur l'épisode sur Cours à pieds nus, le livre de Ken Bob Saxton, justement, où il parle de mobilité. Mais en fait, tous ceux qui courent pieds nus, pour tous les livres, et j'en ai je sais pas combien de livres sur la course pieds nus, on est toujours, toujours, toujours dans cet esprit de dire faut redonner de la mobilité, de la force aux orteils, il faut aux pieds dans sa globalité. Et ben la petite balle en fait partie. Voilà, et ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ma vision par rapport à ces courbatures. Une dernière remarque, hein, la courbature ne signifie pas qu'on s'est bien entraîné, elle signifie que ben, le corps a besoin d'adaptation. Alors certains ne jurent que par les courbatures, mais en fait, le manque de courbature ne signifie pas qu'on ne s'est pas bien entraîné, hein. Il y a des gens qui sont plus sujets aux courbatures que d'autres d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup de courbatures, d'autres gens moins. Mais si j'ai envie de dire que finalement, si vous n'avez pas de courbature, ça montre aussi que votre corps, il s'est assez bien adapté finalement à l'effort. Et moi, j'ai le souvenir que quand j'ai commencé à courir au club avec les accélérations, etc., quand j'ai commencé à courir, mais aussi quand j'ai commencé à faire la natation, je revenais le soir, j'étais complètement épuisé, et puis le lendemain, j'avais des courbatures. Ça, c'était au début. Et au bout de quelques temps, même l'entraînement permettait de travailler, d'accélérer, etc. Donc l'entraînement en lui-même restait intense et devenait de plus en plus intense. Mais par contre, mes courbatures baissaient. Et c'est pas que je m'entraînais moins, c'est que mon corps, en fait, devenait plus capable d'encaisser les efforts, était plus adapté, tout simplement. Et c'est justement ce qu'on cherche avec l'entraînement. Et donc, j'ai envie de dire que finalement, si le lendemain d'un entraînement, le lendemain d'une course, on n'a pas de courbatures, qu'on se sent bien, qu'on est en forme, qu'on n'a pas de douleur, etc., ça veut dire pour moi qu'on s'entraîne bien, qu'on a une bonne hygiène de vie, qu'on a un bon équilibre, et finalement, bah, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc finalement, le fait de ne pas avoir de courbature, je trouve aussi que c'est probablement un signe très positif, que finalement, bah, on est sur la bonne voie au global. Voilà. C'est fini. Si vous avez besoin de plus de réponses à vos questions, je vous rappelle que vous pouvez venir dans le Hamsters Running Club, qui est la communauté bienveillante. Dedans, il y a des sessions de questions-réponses, là, comme ça, tous les vendredis, dans lesquelles je réponds à plus de questions, plus longuement, etc. Et puis, si vous voulez des questions des réponses personnelles, si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez qu'on échange sur vos besoins, sur ce dont vous avez besoin, comment vous pouvez progresser, comment vous pouvez vous organiser, etc. Et ben, je propose aussi des accompagnements qui sont individuels sur une séance, sur plusieurs, et avec des réponses vraiment sur mesure. Nous prenons le temps de discuter de vos difficultés, des questions que vous avez. La séance se termine par un plan précis. On échange par messagerie dans les semaines et le mois qui suit pour continuer à voir comment ça évolue, pour en discuter. On peut parler notamment aussi de préparation mentale. On peut parler d'hygiène de vie, on peut parler d'organisation, on peut parler d'objectifs, de comment définir les objectifs, on peut parler de comment on s'adapte à l'entraînement, on peut parler même plein de sujets hein, qui sont pas forcément directement liés toujours précisément sur l'entraînement, mais qui sont finalement sur le mode de vie pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter et pour la Mr Running Club, les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les sportifs.